France Culture.
Chers auditeurs de France Culture, je vais vous raconter une histoire. Le rapport entre deux individus se construit sur un mode dialectique. La rencontre entre deux hommes, deux consciences, est un moment d'affrontement car les hommes ont en eux un désir de reconnaissance. Ainsi parlait Hegel, du haut de sa chaire que lui enviait Schopenhauer à Berlin. N'ayez crainte, ce philosophe martial si peu avenant n'est pas le sujet de notre histoire. Shimon, dit Resh Lakish, l'ex-bandit, l'ex-gladiateur, le pêcheur repenti, devenu l'un des sages les plus écoutés de sa génération, était l'élève passionné de Rabbi Yochanan, sage lui aussi, mais aux mains pures et au visage d'ange. Leur dialogue électrise un livre que tous les mythos ont lu dans leur vie inventée d'avatar, le Talmud. 6000 pages pour apprendre à servir Dieu correctement, jusque dans les détails les plus inouïs, et des milliers de commentaires, soit 5 étagères de gros volumes qui se lisent lentement, puisqu'il s'agit à votre tour de les comprendre pour les commenter 1500 ans minimum après leur écriture. Ouais, ça se lit pas comme un que sais-je ou comme le républicain lorrain. Deux hommes, deux opposés, la rencontre dans l'eau d'un torrent et la force de l'amitié. Nous avons tous un double, et parfois c'est un double qui ne nous ressemble pas, mais nous complète, nous finit. Rabbi Yochanan était un maître du Talmud, Resh Lakish était son disciple. Un disciple a besoin d'un maître, oui, mais parfois le maître ne peut pas se passer de l'élève. Une amitié addictive au IIIe siècle de notre ère, alors que la terre de Judée subit la botte impériale de Rome et que plus loin à Babylone, les exilés, endeuillés de la destruction du temple, assis sur le bord de la rivière, pleurent. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Au départ, ces deux hommes vivent dans deux mondes totalement hermétiques l'un à l'autre. À cette époque et dans ce contexte colonial, les Judéens, aujourd'hui appelés Juifs, doivent faire toutes sortes de métiers pour survivre à la politique confiscatoire du fisc romain. Shimon Lakish est fort et le cirque est une institution publique, l'un des soutiens du pouvoir latin. Du pain, des jeux, ça paye bien, ça permet de maintenir des tyrans et des abrutis au pouvoir, comme à notre époque. Resh Lakish se fait gladiateur. Oubliez la maison d'études où doivent aller les enfants juifs. Ce colosse devient un glouton qu'on engraisse dans des centres d'entraînement païens, mais aussi, dit l'histoire, un criminel, un bandit de grand chemin, qui vit dans la conscience que son prochain combat peut bien être le dernier et vit en mode YOLO. La civilité, le respect de la loi ne sont plus ses priorités. Il est chef de gang et sa force exceptionnelle s'impose partout, alors que sa réputation de terreur des gladiateurs de Césarée le précède. Un jour, il dira ces mots, consignés dans le traité Sota 3a, « Nul ne se décide à pécher et à enfreindre la loi s'il n'a pas été traversé d'un vent de folie. » Ce vent de folie, cet instant de décision, dirait Nietzsche, nul ne sait d'où il souffla pour lui. On connaît en revanche l'instant du match retour, le moment de ce qu'on appelle la Teshuvah, le retour de Resh Lakish sous les ailes de la présence divine, telle qu'elle est racontée dans le traité Baba Metzia, page 84a.
Un jour, Rabbi Yochanan se baignait dans le Jourdain. Resh Lakish l'aperçut et se jeta à l'eau à sa poursuite. À cette époque, Reish Lakish était à la tête d'une bande de pillards. Rabbi Yohanan lui dit « Ta force est digne de l'étude de la Torah ». Reish Lakish lui répondit « Ta beauté est digne des femmes ». Rabbi Yohanan lui dit « Si tu retournes à la recherche de la Torah, je te donnerai ma sœur en mariage, qui est plus belle que moi ». Reish Lakish accepta d'étudier la Torah. Par la suite, il voulut sauter hors du fleuve pour récupérer ses vêtements, mais il en fut incapable, car il avait perdu sa force physique dès qu'il avait accepté la responsabilité d'étudier la Torah.
Le retour de Reish Lakish, le gladiateur, à la maison d'études est spectaculaire. Il devient le gendre et l'interlocuteur préféré du grand rabbi Yohanan. Il entend rattraper le temps perdu en futilité et en transgression jusque-là. Il y met toute son âme et comme son sens critique est en permanente ébullition, le voilà reconnu l'un des plus importants sages de l'Académie de Tibériade, c'est-à-dire en ces temps le plus important foyer de culture juive de la région. Reish Lakish considère même la repentance comme une réalité créée avant même l'œuvre du commencement. Un cerveau omnipotent, une modestie rare, beaucoup de vivacité, d'éloquence, voilà l'homme qui fascine la Galilée. On parle aussi d'une forme d'extrémisme qui lui vient de son passé de combattant. Pourtant, Reish Lakish aime les enfants et n'insiste jamais trop sur l'importance de la transmission.
Le monde ne survit que grâce au souffle des écoliers. Une ville où il n'y a pas d'école sera un jour détruite.
Mais sa foi en la chance de chacun de refaire un jour son âme, sa foi en le retour est spectaculaire. On lui doit l'une des phrases les plus douces du Talmud et de l'histoire des religions en général.
Grande est la repentance, car grâce à elle, les péchés délibérés sont considérés comme des mérites.
Rabbi Yohanan le considère désormais comme son alter ego et n'envisage plus d'étudier une page sans lui. Les voici tous deux penchés sur les tablettes, raconte Reish Lakish.
S'écoutant mutuellement en matière de loi, le saint, béni soit-il, écoute leur voix comme il est dit. Toi qui habites dans les jardins, les compagnons écoutent ta voix. Fais-la moi entendre.
Sa particularité, il confronte des textes à des textes et des raisonnements à des raisonnements dans une spirale sans fin d'une rare exigence. C'est ainsi qu'on lui prête ce jugement.
Celui qui étudie un texte 101 fois ne ressemble plus à celui qui ne l'étudie que 100 fois.
De temps à autre, ses talents de bagarreur et de brute sont encore sollicités, comme lorsqu'il va tout seul récupérer un collègue d'études kidnappé par des Romains. Il sait encore se battre, mais sa sainteté ne fait tellement plus de doute que, dit le traité Yoma 9b,
quelqu'un qui est aperçu en conversation avec lui est dispensé à jamais de présenter une quelconque garantie dans le cas où il sollicite ici ou là un prêt d'argent.
Marié à la sœur de Rabbi Yohanan, prince des érudits, Reish Lakish touche au ciel, jusqu'à cette controverse qui fait basculer la bromance dans le drame. Une question, un jour, les oppose.
À partir de quel moment, pendant qu'elle se fabrique, une arme, qu'il s'agisse d'un poignard ou d'une épée, peut être considéré comme suffisamment achevé pour devenir un réceptacle d'impureté.
Rabbi Yohanan veut taquiner Reish Lakish et lui rappelle lourdement son passé.
Naturellement, les brigands sont experts en la matière de brigandage.
La réponse de Reish Lakish est terrible.
Et à quoi cela m'a-t-il servi, je vous le demande? Quand je vivais parmi les brigands, on m'appelait maître. Aujourd'hui, je suis dans le monde de la Torah, on m'appelle également maître.
Reish Lakish tombe malade, de ces langueurs dont cette époque ne connaît pas la source mais qui tuent plus sûrement que la ciguë. Reish Lakish quitte bien vite ce monde sans avoir revu son maître. Or, Yohanan avait en lui son double. Sans son harcèlement sémantique, comment rester le grand maître de son époque? Sans un bon dialogueur, le progrès n'est plus possible. Inconsolable, errant dans les rues comme fou, la sommité admirée de tous, Rabbi Yohanan n'a plus le cœur à l'étude. Les questions tellement déstabilisantes de Reish Lakish, son caractère iconoclaste, lui manque tragiquement. On tente bien de lui présenter un autre disciple, Eliazar ben Pedat, mais il tombe toujours d'accord avec lui et lui apporte encore de l'eau à son moulin. La colère de Yohanan se déchaîne.
Lakish, lui, il faut que tu le saches, à chacune des opinions que j'exprimais, il trouvait 24 objections auxquelles j'apportais à mon tour 24 nouvelles réponses.
Langueur, manque de l'irremplaçable, Rabbi Yohanan crie tout seul, tel un insensé.
« Fils de Lakish, où es-tu ? Fils de Lakish, où es-tu ?»
On prie pour lui, on prie parce qu'il souffre, on prie car on sait, à cette époque, prier pour que s'arrêtent les souffrances d'un maître, et elles s'arrêtent. Resh Lakish a prouvé une vérité qui est comme une source infinie d'espoir. Le libre arbitre de l'homme, sa liberté de décision, peut non seulement inventer l'avenir, mais aussi changer le passé. Je voudrais maintenant citer avec émotion les écrits de mon oncle Victor Malka, qui fut producteur sur cette antenne de 2004 à 2013, homme de lettres, érudit en Torah, en Coran et en poésie. Il parle de mon grand-père, le grand rabbin Moshe Malka, de mémoire bénie.
J'ai un jour demandé à mon père, qui était sur son lit de mort, lequel de Lakish ou Yohanan il préférait, et de qui il se sentait le plus proche de ces deux personnages qu'il avait, l'un et l'autre, accompagnés de leurs enseignements durant 7 décennies. Il m'a répondu ceci. J'aime Rabbi Yohanan pour la sagesse de son enseignement et je ne peux me passer de Resh Lakish en raison de la justesse de ses interrogations. Une bonne question est bien souvent supérieure à une mauvaise réponse.
Fermez les yeux. Qu'avez-vous fait des questions ? Rappelez-les en souvenir, elles sont vos plus fidèles compagnes. Tous les épisodes sont disponibles à vie sur les sites et plateformes de France Culture. Merci à l'indispensable Cassandre Puel, à la virevoltante Aurélie Marsay, à la technique Paul Guig, Mix, Ludovic Auger et bravo à Théo Wiesmann. À dimanche prochain et que votre semaine soit aussi une histoire truculente.
Conmigo mismo pelea, si eso se llama vivir, que venga Dios y lo vea. Al moro me fui a buscarte y en tu casa me metí, y ahora que estamos juntitos, ¿sabes quién?